nous abordons un autre thème. Le peuple de l'espérance espère contre toute espérance. Le peuple de l'espérance espère contre toute espérance. Vous savez, frères et sœurs, si nous l'avons déjà dit hier, l'espérance est une donnée essentielle de la vie. Il faut espérer pour vivre. Il faut imaginer un lendemain pour avoir envie de vivre et de se battre. Quand on n'imagine plus de lendemain, eh bien, on n'a plus envie de vivre. Mais vous savez, on aurait dit que tous les jours, la vie essaye de ruiner notre espérance. L'espérance de l'établissement du bien, du règne de la justice, est mise à mal chaque jour. Chaque jour qui passe, on a l'impression que ce n'est pas le bien qui va triompher, mais c'est le mal qui va triompher. Chaque jour qui passe, notre espérance, on a l'impression, est battue en brèche. Mais la Bible nous dit que nous devons apprendre à espérer contre toute espérance. Prenez avec moi vos Bibles et regardez où se trouve cette phrase dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, qui nous apprend qu'il y a des gens dans la Bible qui ont espéré contre toute espérance. Prenez avec moi l'Épître aux Romains, au chapitre 4. Alors, je vous invite à être attentif si quelqu'un auprès de vous a besoin d'aide pour trouver les textes de la Bible, pour lui donner un accompagnement. Romains, chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il écrit une lettre aux chrétiens qui habitent Rome. C'est pourquoi on l'appelle la lettre aux Romains. Et il parle d'Abraham. Il raconte l'histoire d'Abraham. Et il dit qu'Abraham, il est le père de la nation juive. Abraham est un homme qui a espéré contre toute espérance parce qu'un jour, Dieu est venu voir Abraham. Dieu lui a parlé, lui et sa femme. Et Dieu leur a déclaré, vous aurez un enfant mâle et il va assurer votre descendance. Et après vous, il va être l'ancêtre du peuple d'Israël. Mais la Bible dit qu'Abraham voyait les années se défiler. Et à un moment, il a douté. Il a dit, mais il y a tant d'années qui passent. Nous vieillissons, notre corps vieillit. Est-ce qu'on aura cet enfant? Parce qu'il ne l'avait pas. Il ne voyait pas venir cet enfant. Et la Bible dit dans Romains chapitre 4, Dieu parla à Abraham et il est dit au verset 16, Romains chapitre 4 au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant, qu'est-ce que vous lisez? Laissez-moi vous écouter de nouveau. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce que qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à espérer contre toute espérance? Vous savez, par moments, quand on regarde la vie, quand on regarde l'Église, quand on regarde ce qui se passe au sein de l'Église, et parfois même à la direction de l'Église, car il n'est pas tout de critiquer les membres, mais il faut que les dirigeants prennent leur part aussi. Quand on regarde toutes ces choses, parfois, on est tenté par être découragé. On est tenté par dire, bon ben, ça ne va pas, c'est pas ce qu'il faut. Et on serait tenté d'abandonner tout, l'Église, la foi, les principes, et en se disant, mais finalement, est-ce que toute cette affaire de christianisme, ce n'est pas l'opium du peuple? Est-ce que ce n'est pas une drogue douce qu'on nous donne pour nous calmer et nous maintenir dans la tranquillité? On nous raconte depuis tant d'années que Jésus revient bientôt, et puis, point de Jésus, au lieu que ce soit Jésus qui revienne, c'est le mal qui augmente. Mais mes frères et sœurs, Abraham a dû se poser toutes ces questions. Les années passent, le corps vieillit, l'enfant ne vient pas. Mais la Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance, et la Bible dit que l'enfant est venu même lorsqu'il ne s'y attendait plus. Mes chers amis, c'est vrai que notre espérance, ça fait longtemps qu'on attend. Très longtemps qu'on attend. Vraiment très longtemps. Et parfois, on a envie de se demander, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Mais j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, il nous faut vivre dans la confiance, mettre notre confiance en Dieu et attendre ce que le Seigneur a promis, car ce que le Seigneur a promis viendra. Je vous rappelle ce que nous avons découvert hier matin. Hier matin, nous avons découvert qu'il y a dans la main de celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père, un livre scellé de 7 sceaux. Ce livre a plusieurs caractéristiques. Découvrons ces caractéristiques. Regardez ensemble au tableau et nous découvrons et nous nous rappelons ces caractéristiques. Vous pourrez lire dans Apocalypse au chapitre 5. Premièrement, la Bible nous dit qu'il y a dans la main de celui qui est assis sur le trône un livre roulé. Ce livre est fermé. Il est scellé de 7 sceaux. S'il est roulé et s'il est scellé de 7 sceaux, cela signifie qu'on ne voit pas bien encore ce qui est écrit dedans. Le livre, il nous est dit, est écrit au-dedans comme au-dehors. Donc, même si le livre est roulé, c'est un rouleau, on voit certaines choses, puisque c'est écrit au-dedans comme au-dehors. Mais on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout comprendre. Ce livre, qu'est-il ce livre? Ce livre révèle le testament, la volonté de Dieu. Trop vite, reviens. Merci. Ce livre révèle le testament, la volonté de Dieu. Et un seul est capable de mettre cette volonté de Dieu à exécution, parce que rappelez-vous, on se pose la question, mais qui est digne de prendre ce livre et de l'ouvrir? Et la Bible dit que personne ne pouvait l'ouvrir et même pas le regarder, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre tout à fait ce qu'il y a dans ce livre. Mais nous notons autre chose, on avance, que ce livre révèle le plan de la rédemption de la croix jusqu'à la fin des temps. Parce que ce livre, un seul a été capable de l'ouvrir, et celui-là c'était qui? Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. C'est le seul capable d'ouvrir le livre. Et nous avons dit que ce n'est qu'en Jésus seul que nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas ce qui nous a été chanté tout à l'heure? Que ce n'est que par Jésus seulement que nous pouvons être sauvés. Nous avons encore vu que ce livre a une autre caractéristique. Et regardons la suite. Le livre est scellé de 7 sceaux. Et les sceaux sont ouverts les uns après les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'histoire du salut, suivez bien, frères et sœurs, ça nous intéresse particulièrement. Que l'histoire du salut n'est pas relevé, n'est pas révélé en une seule fois. On n'a pas ouvert l'enveloppe en une seule fois. On n'a pas ouvert les 7 sceaux en même temps. Les sceaux sont ouverts les uns après les autres. Autrement dit, bon Dieu qu'a fait qu'on ti mamay qui risouvrait en bonbon. Zotza wè lan ti mamay risouvrait en bonbon. Il ka pran tan yi développer ti bagay la gentiment. Il ka pran tout ti tan yi. Et puis comme si il y a un plaisir à manger le bonbon, mais pas trop vite parce que pa ni en pile. Vous ne connaissez pas ça, vous avez grandi dans l'abondance. Mais quand j'ai grandi chez moi, nous étions 6. Là nous t'ai ouvert un soda, c'est pour les 6. À présent chaque petit moment il y a un soda. Yo t'ai capable on dé à coup de petit brin soda. Non, nous à 6. Eh bien, faites-moi confiance, quand vous receviez ça, ce petit verre de soda vous durerait plus d'une heure. Ou qu'a tremper les voix dedans, pas qu'a brayer, c'est tremper ou qu'a tremper les voix dedans. Eh bien, c'est la même chose. Dieu ouvre. L'histoire du salut est révélée, mais pas tout d'un coup. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as l'impression que tout ne vient pas d'un coup, si tu as l'impression que Jésus est venu, mais que tu attends son retour, ne te décourage pas, parce que la Bible te prévient que les 7 sceaux ne sont pas dévoilés d'un coup. On ouvre les sceaux les uns après les autres. Pour que l'histoire du salut soit déployée complètement, cela prend du temps. Ensuite, il faut ouvrir tous les sceaux pour ouvrir le livre. Ce qui signifie que tant qu'on n'a pas ouvert le dernier sceau, on ne comprend pas le livre, puisque le livre reste fermé jusqu'au dernier sceau. Donc, jusqu'à présent, il y a des sceaux qui sont déjà ouverts. Nous attendons maintenant l'ouverture du 6e sceau, le retour de Jésus. Mais jusqu'à présent, il y a encore des choses que nous ne comprenons pas vrai? Est-ce que vous comprenez toute la Bible? Est-ce que vous comprenez toute la révélation? Tant mieux pour vous. En tout cas, c'est pas le cas pour moi. Et parfois même, il y a des choses qui nous arrivent dans notre propre vie, dans notre famille, et puis on ne comprend pas. Souvent, on passe notre temps à dire, Seigneur, pourquoi? 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 On ne comprend pas tout dans le plan que Dieu a pour nous. Dieu a un plan pour nous, mais on ne comprend pas tout. Et il nous arrive même de dire, Seigneur, pourquoi tardes-tu tant? Mais le livre et les 7 sceaux est là pour nous dire, il vous faut espérer contre toute espérance. Il vous faut prendre le temps. Il vous faut donner à Dieu le temps. Dieu est en train de travailler pour l'établissement de la justice. Ne vous pressez pas, ne le pressez pas. Ne vous découragez pas, restez là, parce que Dieu ouvre les sceaux les uns après les autres. Et regardez, frères et sœurs, je voudrais vous montrer une chose intéressante. Lorsqu'on ouvre les sceaux, la manière de raconter les sceaux nous montre qu'il y a une progression dans le temps. Regardez bien ce qui va suivre. Il y a une progression dans le temps. Avançons encore. L'ouverture des sceaux révèle une progression dans le temps. Notez ce qui va suivre et vous allez vérifier cela à la maison. Chaque fois qu'on ouvre un sceau, il y a quelque chose qui est dit. Quand on ouvre le premier sceau, Apocalypse 6, verset 1. Il est dit, viens. Comme si on dit au Seigneur, viens. Deuxième sceau. Quand on ouvre le deuxième sceau, on dit encore, Seigneur, viens. Apocalypse 6, verset 3. Viens, Seigneur. On a envie qu'il vienne. Au troisième sceau, regardez. Il est dit encore, Seigneur, viens. Vous avez noté que volontairement, je ne vous mets pas tout le verset parce que je voudrais que vous soyez curieux de lire vous-même aussi. Viens, troisième sceau, Apocalypse 6, verset 5. Là encore, quand le sceau est ouvert, il est dit, viens. Quatrième sceau, quand le quatrième sceau est ouvert, là encore, on dit, Seigneur, viens. Et puis au cinquième sceau, Qu'est-ce que vous lisez? Au cinquième saut, on a l'impression que l'impatience commence à gagner. On ne dit plus « viens », on dit quoi? Jusque à quand? On dit plus « viens Seigneur », mais on commence à dire « Seigneur, on en a marre ». Ça fait trop longtemps. Jusque à quand les saints seront persécutés? Jusque à quand le mal va dominer? Jusque à quand? Pourquoi tardes-tu? C'est ça qu'on commence à dire au cinquième saut. Et vous savez, le cinquième saut correspond à notre période, la période du christianisme que nous vivons maintenant, la période qui précède le sixième saut, et le sixième saut, c'est le retour de Jésus. La preuve, dans le sixième saut, qu'est-ce qui est dit? Dans le sixième saut, il est dit quoi? Il est venu. Donc le sixième saut, on n'attend plus le Seigneur, puisqu'on dit déjà maintenant, il est venu. Le temps de la colère de l'agneau est venu. Là maintenant, nous ne sommes pas dans le sixième saut. Nous sommes dans le cinquième saut. Le temps qui va se préparer devant nous, ce sera un temps de persécution, un temps de martyr, un temps difficile, un temps de maladie extraordinaire, un temps de brisure dans les familles, un temps où le diable agit, un temps où nous disons souvent, Seigneur, jusque à quand? Combien de temps? Pourquoi tardes-tu, Seigneur? Jusque à quand? Mais, lorsqu'on dit au cinquième saut, jusque à quand? Au sixième saut, on dit, il est venu. Mon frère, ma sœur, espère contre toute espérance, parce que même s'il y a un temps où on a l'impression que Dieu tarde, viendra un temps où nous dirons, il est venu. Et puis, au septième saut, parce qu'il y en a sept, lorsque le septième saut est ouvert, la Bible dit qu'il y eut un silence. Le septième saut, nous le trouvons dans Apocalypse 8, verset 1. On va avancer et nous allons lire ensemble le septième saut. Et ce sera l'objet de notre étude ce soir. Apocalypse 8, verset 1, regardez le texte. La Bible dit, quand il ouvrit le septième saut, il y eut dans le ciel, notez bien, frères et sœurs, pour les premiers sauts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous lisez que l'événement se passe sur la terre. Mais pour le septième saut, l'événement se passe dans le ciel. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mes frères et sœurs, je voudrais répéter parce que je voudrais que cette séquence soit emmagasinée par notre cerveau. L'histoire du salut se déroule progressivement. Au début, on dit « viens ». À un moment, c'est tellement fort, on dit « jusque à quand ». Mais il y a aussi un moment qui n'est pas encore venu, mais qui va venir. Nous avons l'assurance où on va dire « il est venu, le temps de la colère de l'agneau ». Et puis, après que l'agneau soit venu, le septième sceau sera ouvert. Et quand le septième sceau sera ouvert, c'est à ce moment-là qu'on pourra ouvrir tout le livre. Quand le septième sceau sera ouvert, c'est à ce moment-là qu'on pourra lire tout ce qu'il y a dans le livre. Quand le septième sceau sera ouvert, c'est à ce moment-là qu'on comprendra tout ce qu'il y a dans le livre. À quel moment est-ce que nous allons comprendre tout ce que Dieu a fait? À quel moment est-ce que nous allons comprendre tout ce que Dieu a permis dans notre vie? C'est seulement lorsque le Seigneur Jésus sera revenu. C'est seulement lorsque nous serons dans le ciel avec le Seigneur et qu'il aura tout son temps et qu'il nous expliquera pourquoi tu as eu une jambe cassée tel jour, pourquoi tu n'as pas eu tel travail que tu pensais que tu aurais dû avoir. Il t'expliquera pourquoi tu as eu tel échec. Et tu verras, mais heureusement, parce que le Seigneur m'a protégé, tu diras « Gloire soit à toi, Seigneur, car j'ai rouspété ce jour-là, mais maintenant, je comprends tout, le livre est ouvert et je te glorifie. » Mes frères et sœurs, lorsque le septième sceau sera ouvert, le livre sera ouvert, on comprendra tout. Mais c'est bizarre. On comprendra tout, mais on va garder un silence d'une demi-heure. Alors, je vais vous inviter maintenant à vous concentrer. Maintenant, ce sera un tout petit peu mathématique, mais c'est fait exprès. Car Dieu veut que les mathématiciens aussi s'intéressent à la Bible. Regardez, pourquoi le silence est d'une demi-heure? Essayons de comprendre pourquoi. Regardez les diapositives qui vont suivre. Et si vous êtes attentifs, eh bien vous comprendrez. Une demi-heure prophétique, parce que nous sommes dans un livre prophétique. Une demi-heure prophétique, c'est égal à 7 jours. Comment on trouve cela? Regardez bien. Avançons. Dans la Bible, lorsqu'on est dans un domaine prophétique, souvent, quand Dieu donne un jour correspond à une année littérale. Un jour prophétique correspond à une année littérale. Vous trouvez ça, par exemple, dans Ézéchiel 4, versets 5 à 6. Vous pourrez noter et lire tranquillement à la maison. Vous verrez que Dieu dit au prophète, « Je t'impose un jour pour une année. » Alors, maintenant les mathématiciens, mettez-vous à réfléchir. Ceux qui comptent bien, les comptables, il faut que vous mettiez à réfléchir. Une année, c'est un jour. Et on va essayer de trouver comment une demi-heure, c'est égal à 7 jours. Regardez la diapositive suivante. Première chose. Une année, c'est un jour. Un jour, c'est combien d'heures? 24 heures. Une année, c'est 365 jours pour nous maintenant. Mais à l'époque biblique, le calendrier juif, c'était un calendrier lunaire. Donc, leur année était plus proche de 360 que 365. Mais, même si vous prenez 365, ça ne va pas annuler notre calcul parce qu'il est dit dans Apocalypse 8, verset 1, qu'il y eut un silence d'environ une demi-heure. Ça veut dire que ce n'est pas à la virgule près, puisque 365 ou 360, ce n'est pas grave. Mais si un jour égale une année, ça veut dire que 24 heures égale combien? 360 jours. Ensuite, si 24 heures égale 360 jours, est-ce que vous êtes d'accord de dire que 12 heures, c'est égal à 180 jours? 12 heures, c'est la moitié de 24 heures. Et 180, c'est la moitié de 360. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? OK. Si 12 heures, c'est 180 jours, à ce moment-là, quand on va diviser encore par deux, 6 heures prophétiques, ce sera combien de jours? 90 jours. Et quand on va encore diviser, si on prend 3 heures, ce sera combien? 45 jours. Et si on divise encore, 1 heure, ce sera 15 jours. Et si on divise encore, 1 demi-heure, ce sera 7 jours. Est-ce que 7 jours, ça vous dit quelque chose? Pardon? Est-ce que 7 jours, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a 7 jours célèbres dans la Bible? C'est quoi? À quoi vous pensez tout de suite quand on vous dit 7 jours? Non, je n'ai pas dit 7e jour. Je n'ai pas dit 7e, j'ai dit 7 jours. Quand on vous dit 7 jours, vous pensez à quoi? À la semaine. Et la semaine de référence pour nous, c'est la semaine de création. L'histoire de l'humanité commence avec une période spéciale de 7 jours. C'est la semaine de création. Lorsque Jésus revient, c'est le sixième sceau. Lorsque le septième sceau est ouvert, le septième sceau, c'est une période spéciale d'une demi-heure prophétique, autrement dit, une période de 7 jours. Et c'est une période de 7 jours pour un nouveau commencement. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'on a eu 7 jours de création pour commencer l'histoire de ce monde. Mais la Bible nous annonce qu'il y aura une deuxième semaine spéciale. Cette semaine spéciale, c'est quand Jésus reviendra. Jésus prendra tous ses enfants, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Il les emmènera avec lui au ciel. Mais lorsqu'ils partiront avec Jésus au ciel, puisque la scène se passe au ciel, lorsqu'ils partiront avec Jésus au ciel, il y aura une semaine spéciale. Comme il y a eu une semaine spéciale au début de l'histoire de l'homme pour introduire l'homme dans le paradis. Et pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? On va voyager, oui. Mais qu'est-ce que la Bible avait dit tout à l'heure? Vous n'avez pas lu le texte avec moi? Apocalypse 8, verset 1. Qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine? Un silence, merci. Il y aura un silence d'une demi-heure, ou alors littéralement un silence d'une semaine. Et qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Regardez, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Le silence dans la Bible d'une semaine, ça vous fait penser à l'histoire de Job. Prenez vos Bibles et lisons cela. Job chapitre 2. L'histoire de Job, c'est une histoire très connue dans la Bible. Job est un homme qui sert Dieu. Il sert Dieu fidèlement. Il sert Dieu à fond. Il est authentique. Il est honnête. Et puis, le diable vient et le diable décide de persécuter Job. Job perd tous ses biens. Job perd tous ses enfants. La maladie envahit Job. La Bible dit que Job est couvert d'un ulcère. Et alors, des amis à lui apprennent qu'il est malade. Et regardez, quand les amis apprennent qu'il est malade, qu'est-ce qu'ils font? Job 2, verset 11. Lisez avec moi. La Bible dit, trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad, et ensuite l'autre c'est qui? Qui? Oh, oh, vous ne dormez pas encore, il est 8h moins 10. L'autre c'est comment? Tsophar. Ces trois amis-là, eh bien, ils apprirent tous les malheurs qui étaient arrivés. Et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Voici trois hommes qui partent de chez eux et qui disent, allons voir Job, parce que Job est malade, Job a des problèmes, on va le consoler. Ils se mettent d'accord, ils font route ensemble, ils arrivent chez lui. La Bible dit maintenant au verset 12, « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. » Et ensuite, « Et ils élevèrent la voix et pleurèrent, ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. » Et la Bible dit, « Et ils se mirent assis à terre auprès de lui. » Qu'est-ce que vous lisez? 7 jours et 7 nuits sans lui dire quoi? Une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Pourquoi ces hommes gardent-ils le silence? Parce qu'ils sont étonnés. Ils ont le choc de leur vie. Ils connaissent Job. Job était un homme riche. Même si on n'imagine pas que Job avait un gros boudin, mais en tant qu'homme riche, on imagine que Job mangeait 3 repas par jour et que Job avait un physique normal. Job avait un visage plein. Et puis ils arrivent, ils voient un bonhomme squelettique, ravagé par la maladie, ravagé par le chagrin. Ils sont étonnés, ils ne le reconnaissent pas. Et ils ont comme seul moyen d'expression quoi? Un silence de 7 jours. Mes frères et mes sœurs, quel sera notre plus grand étonnement? Vous voulez que je vous le dise, notre plus grand étonnement sera quoi? Sera lorsque nous allons voir tout ce que la Bible prophétise se réaliser. Et vous imaginez pas, frères et sœurs, même si vous lisez tous les jours, Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transmués, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les paralysés vont courir. Ah, tous les jours nous lisons ça. On lit tous les jours, Jésus descendra du ciel au son de la trompette. Nous-mêmes, nous allons décoller comme la navette et monter comme cela. Aller à sa rencontre sur les airs. Et là, nous serons avec lui pendant 1000 ans. Je vous parlerai des 1000 ans demain soir. Nous serons avec lui pendant 1000 ans. Frères et sœurs, je vous garantis que même si vous dites ça tous les jours, lorsque ça va arriver, vous serez bouche bée. Est-ce que vous pouvez imaginer, grand-maman ou qu'a outéré, grand-papa ou qu'a outéré qui t'a aimé, bon Dieu, ou tout bout là, et pourquoi grand-papa ou qu'a sorti en tombe là et puis qu'a monté? Est-ce que. Oui, qu'a pète la parole. Est-ce que vous imaginez voir des anges, voir des séraphins, entendre des trompettes, voir le trône de Dieu, voir Dieu lui-même? Je vous garantis, même si vous lisez ça tous les jours dans la Bible, l'étonnement sera tellement grand que vous capez de la parole. Et ce que je vous dis, la Bible le dit. Regardez avec moi. Lisez dans la Bible, dans Zacharie chapitre 2. Dans Zacharie chapitre 2, la Bible nous raconte le retour de Jésus. La Bible nous raconte l'établissement du paradis. Regardez avec moi. Zacharie chapitre 2. La Bible dit que ce sera tellement beau que nous allons perdre la parole. Zacharie chapitre 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10. La Bible dit, lorsque nous allons voir Jésus, être avec lui, voir la manifestation de sa gloire, que tout le monde fera silence. Zacharie 2, verset 10. Vous avez trouvé? On a du mal à trouver Zacharie. C'est bon? Vous avez trouvé? Ok. Regardez ce qui est dit. Il est parlé au peuple d'Israël, le peuple qui attend la venue du Messie. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, qu'est-ce que vous lisez? Je viens. Et quoi d'autre encore? J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est quoi ça, frères et sœurs? Vous êtes d'accord que ça, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Dieu vient. Et Dieu habite parmi son peuple. Mais quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Et qu'est-ce que vous lisez? Quand tout ça va arriver, qu'est-ce qui nous est dit? Que toute chair fasse quoi? Silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. La Bible dit, lorsque la gloire de Dieu sera manifestée, lorsque Dieu viendra, lorsque Dieu habitera parmi nous, lorsque les malades seront guéris, lorsque les morts seront ressuscités, la Bible dit qu'une seule chose qu'on dira à tous, faites silence. Parce que, mes amis, ce sera tellement grandiose. Ce sera tellement extraordinaire. Notre espérance est une espérance indescriptible. Une espérance où on va perdre la parole, on va rester bouche bée. Mais c'est pas tout. Parce qu'on pourrait penser que c'est Zacharie seulement qui le dit. Regardez ce que dit Sophonie, chapitre 3. Regardez. Sophonie, c'est avant Zacharie. Avant Zacharie, il y a Sophonie. Il y a Agée et puis il y a Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 14. Regardez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Vous avez trouvé? Vous étiez déjà tout prêts. Sophonie 3, verset 14. La Bible dit quoi? La Bible dit, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ça veut dire que si Zacharie dit que le peuple gardera le silence, Sophonie dit que l'Éternel lui-même, dans son amour, gardera le silence. C'est-à-dire que l'événement sera tellement extraordinaire, frères et sœurs, que pendant un moment, c'est comme nous, eh bien, il y a des choses qui nous coupent la parole. Ça ne vous est jamais arrivé de vous trouver devant une situation, devant une révélation, devant quelque chose d'extraordinaire, et puis vous restez là, la bouche grande ouverte, et pas un mot ne sort. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est le silence. Je répète, notre espérance, c'est le silence. Notre espérance, c'est le silence. Notre espérance, c'est qu'un jour, nous allons perdre la parole. Un jour, nous allons voir se réaliser le plan de Dieu. Ce plan que nous avons tellement espéré. Aujourd'hui, nous disons, jusque à quand, Seigneur? Aujourd'hui, nous disons, que tardes-tu, Seigneur? Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, nous avons marre de souffrir. Nous avons marre du règne du mal. Nous avons marre de voir le péché envahir tout et salir tout. Seigneur, nous sommes fatigués de nous battre. Nous sommes fatigués d'aller au travail. Aujourd'hui, nous disons ça. Mais un jour, nous dirons, c'est merveilleux. Il est venu. Un jour, comme le dit le texte de Zacharie et de Sophonie, nous allons nous réjouir d'allégresse. Nous disons, voici le Seigneur, il est venu. Mais quand le Seigneur te prendra, et que tu vas voir tous les saints réunis dans la gloire, tu vas te voir décoller de la terre et rejoindre le Seigneur sur les nuées des cieux. Tu verras Adam, tu verras Abraham, parce qu'ils seront tous là. Tu les verras tous. Tu verras l'apôtre Paul, Jean, Pierre, tu verras Jésus, tu verras les marques dans ses mains. Alors là, tu ne diras plus rien. Tu auras le souffle coupé. Tu auras la bouche qui ne peut plus se mouvoir. Les mots ne sortiront plus. Et tu seras dans un silence. Le silence de l'étonnement. Le silence parce que nous n'avons rien à dire devant une telle chose. L'espérance du peuple de Dieu, c'est le silence. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre l'espérance du silence, il nous faut aujourd'hui apprendre à vivre déjà le silence. Parce que le silence dans la Bible, c'est le symbole de l'étonnement. Mais le silence dans la Bible, c'est aussi le symbole de la confiance. Regardez avec moi ce verset que vous connaissez bien. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 14, Moïse avait dit à Israël, lorsqu'Israël sortait d'Égypte, lorsqu'Israël voyait la menace, lorsqu'Israël voyait venir les Égyptiens, lorsqu'Israël voyait la mer Rouge, et que Israël avait tendance à paniquer, et qu'Israël avait tendance à dire, retournons en Égypte, Et qu'Israël avait tendance à dire, mais que sommes-nous venus mourir dans le désert? Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse a dit à Israël, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Oh, mes frères et sœurs, je sais que le découragement couche à nos portes. Parfois, frères et sœurs, il y a vraiment des choses pour nous dégoûter, pour nous décourager. Combien de fois je rencontre mes frères et sœurs et ils me disent, pasteur, des fois je n'ai pas envie de venir à l'église. Des fois je suis dégoûté, je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses bizarres dans l'église, j'ai envie de laisser tomber. Et il y a des gens qui disent aussi, je reconnais la beauté de l'évangile, mais je ne veux pas me faire baptiser parce qu'à l'église, je connais quelqu'un qui est un hypocrite. Je connais quelqu'un qui est un voleur. Mais le Seigneur te dit ce soir, ne regarde pas toutes ces choses. Le Seigneur te dit ce soir, regarde ma parole. Et sache que même s'il y a des hypocrites, des menteurs ou autres, cela ne m'empêchera pas de venir quand je dois venir. Le Seigneur te dit ce soir, même si des moments tu dis, jusqu'à quand Seigneur, mais reste attaché au Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus-Christ. Le Seigneur te dit ce soir, le plan du salut prend du temps à se dévoiler. Il vient petit à petit, mais il vient certainement. Le Seigneur te dit ce soir, le jour vient où nous dirons, il est venu. Le jour de la colère de l'agneau est venu. Le Seigneur te dit, le temps vient où c'est le silence que tu garderas parce que tu seras étonné, étonné des choses merveilleuses que tu vas découvrir. Mais le Seigneur te dit, si tu veux vivre ce temps-là, si tu veux vivre ce silence-là, garde le silence aujourd'hui. Ne t'irrite pas contre le méchant. Et je voudrais vous donner un texte à lire ce soir avant de dormir. Lisez et méditez le psaume 37 ce soir avant de dormir. Le psaume 37, lisez-le et méditez-le ce soir avant de dormir. Le Seigneur dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Ne te décourage pas. Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Reste fidèle au Seigneur, prie Dieu, fais confiance à ton Dieu et le Seigneur agira pour toi. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, je sais que nous avons mille raisons d'être découragés, mille raisons d'être abattus, mais je vous en supplie au nom de Jésus, espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance mes frères, car le plan de Dieu ne connaît ni hâte, ni retard, ni précipitation. Dieu fait les choses en son temps. Mes frères et sœurs, je ne me pose plus la question de savoir est-ce que Jésus viendra. Je me pose une seule question. Quand Jésus viendra, est-ce que je serai prêt pour l'accueillir? Ne te demande pas est-ce que Jésus va venir. Ne te demande pas est-ce que Jésus va purifier l'église un jour? Ne te pose plus ces questions-là. La Bible a déjà répondu une seule question que tu dois te poser. Quand Jésus reviendra, seras-tu prêt? As-tu fait ton alliance avec le Seigneur? Il n'est pas trop tard. Donne ton cœur à Jésus. Il n'est pas trop tard. Sois baptisé au nom du Seigneur si tu ne l'es pas encore. Il n'est pas trop tard si tu es baptisé. Consacre-toi au Seigneur. Il n'est pas trop tard. Si tu parles beaucoup, si tu te lamentes beaucoup, si tu es toujours dans les critiques, il n'est pas trop tard. Tais-toi. Garde le silence. Ne t'irrite pas contre le méchant. L'Éternel prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse.